Luc 4, verset 31. Donc il, c'est Jésus, descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de son enseignement car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte « Hé, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon projeta celui-ci au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole ? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandait dans toute la région. En quittant la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon était atteinte d'une forte fièvre et ils le prièrent en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et se mit à les servir. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Des foules de gens se mirent à sa recherche et vinrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Imaginons les situations suivantes. Si vous avez l'occasion de croiser, de manger un repas avec Jeff Bezos, qui est quand même actuellement l'homme le plus riche de la planète Terre, qui a sur son compte en banque quelque chose comme 110 milliards de dollars. C'est pas grand-chose, n'est-ce pas, hein ? Si vous avez l'occasion de manger avec lui, qu'est-ce que vous lui diriez ? Ouais, achète-moi quelque chose. C'est ça que j'ai entendu, n'est-ce pas ? Ouais, franchement. On pourrait pas lui dire « donne-moi un petit million ». Quelqu'un qui a 110 000 millions, ça va. Si on vous demande un franc, à vous qui avez 110 000 francs, pas de problème, c'est rien. Un million, n'est-ce pas ? On aurait tendance, effectivement, à lui poser ce genre de questions, ou à faire ce genre de demandes. Si vous avez l'occasion d'être en face de l'homme au pouvoir actuellement, Uli Maurer, qu'est-ce que vous aurez tendance à lui dire ? Il faut parler plus fort, je suis vieux et je suis loin. Hey, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose pour moi, n'est-ce pas ? Tu pourrais pas m'enlever mon PV que j'ai eu la semaine dernière ? Ou si vous étiez en face de la personne qui a la capacité de réaliser vos rêves, qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Réalise mon rêve, n'est-ce pas ? On est comme ça. Face à quelqu'un qui peut faire ce qu'on aimerait, on a tous tendance à penser à nos intérêts. N'est-ce pas ? On est tous comme ça. On a tendance à penser à nos intérêts. À lui demander, fais quelque chose pour moi. Et dans notre texte, les habitants de Capernaum ont accès à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui se présente comme étant l'homme le plus puissant de toute la terre. Celui qui a autorité sur toute chose. Et qu'est-ce qu'il lui demande ? Et nous, si nous étions à leur place, et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons tendance à lui demander ? Je vous invite à reprendre quelques éléments du texte pour bien réfléchir à cette question. Encore une fois, c'était ce qu'on avait commencé à voir la semaine dernière, Luc nous replace dans une synagogue. La semaine dernière, on était dans la synagogue de Nazareth, là où Jésus-Christ a grandi. Et Luc nous mettait en face de l'enseignement de Jésus-Christ. Et on avait vu que Jésus se présente comme celui qui accomplit les promesses divines. Effectivement, je vous rappelle juste ce passage, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Etc. Donc Jésus commence son ministère public avec cette grande déclaration qui provient de l'Ancien Testament. « Je suis celui que Dieu a destiné pour accomplir toutes ses promesses. » Et il attend de son auditoire, il attend de notre part une réponse de foi. Et ici, à Capernaum, par contre, Luc nous place en face de son enseignement, mais contrairement à Nazareth, il ne nous fait pas entendre son enseignement. Il nous place face aux conséquences de son enseignement ou face à la qualité de son enseignement. Et ça ressort très fortement dans les réactions du peuple. Verset 32, on était frappés de son enseignement car il parlait avec autorité. Et Luc insiste ici sur l'autorité de Jésus. Verset 36 également, tous furent saisis de stupeur et ils disaient les uns les autres, quelle est cette parole ? Il commande avec autorité. Donc Luc nous place pas, il ne nous permet pas d'écouter le discours ou l'enseignement de Jésus-Christ, mais il nous place face à la qualité de cet enseignement, aux conséquences de cet enseignement. Il nous le fait notamment avec trois photos ou trois petits récits. Face au démoniaque, avec la belle-mère de Simon, qui est l'apôtre Pierre, et avec les malades et les démoniaques qui viennent le soir. Et Luc construit cela sur le même schéma. Regardez, il met d'abord en avant la parole de Jésus-Christ. Verset 35, Jésus le menaça en parlant aux démons. Verset 39, face à la fièvre, il se pencha sur elle, menaça la fièvre. Et verset 41, des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu, mais il les menaçait. Donc trois fois, Luc emploie le même vocabulaire en fait pour nous décrire l'action de Jésus-Christ. Voilà comment il agit face aux démons, voilà comment il agit face aux maladies des personnes. Et il ne faut pas voir dans ce verbe menacé de l'intimidation ou de la dureté. Si vous avez une autre version que la mienne, c'est parfois traduit par rabrouer ou simplement commander. Donc autrement dit, clairement, Jésus prend autorité. Prend autorité autant sur les démons que sur la maladie. Et effectivement, on peut remarquer qu'il s'adresse directement à eux. Et d'après le rapport que Luc nous fait, ce ne sont pas des grandes paroles, n'est-ce pas ? Regardez juste à nouveau comment il parle aux démons. Il lui dit « Tais-toi et sors de cet homme ». Il ne monte pas sur ses grands chevaux, il ne nous fait pas des imprécations dans tous les sens, mais une parole simple « Tais-toi et sors ». Et le démon sort. Donc des paroles assez simples. Pour vous qui avez des enfants, ou pour vous qui avez des frères et sœurs, vous avez eu le privilège de vous disputer avec vos frères et sœurs, n'est-ce pas ? Ou de voir vos enfants se disputer. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du volume sonore quand les enfants se disputent ? Il y a une escalade, n'est-ce pas ? Je me souviens avec la dernière de mes sœurs, c'était toujours qui c'est qui allait commander l'autre. Donc forcément, on crie de plus en plus fort pour essayer de s'imposer de plus en plus, pour dire « c'est moi qui ai l'autorité ». Et c'est ce qui se passe en général avec nos enfants. Mais quand le père arrive, qu'est-ce qui se passe ? C'est marqué, en tout cas c'est le cas chez moi, avec mon père, et j'essaye avec mes enfants. Mais une parole simple, calme, en général, suffit. Pourquoi ? Pourquoi ? Quelle est la différence ? Il y en a un qui a l'autorité et un qui ne l'a pas. On sait très bien que les frères et sœurs n'ont pas l'autorité. Mais quand le père débarque, on sait qu'il a l'autorité, il ne suffit pas grand-chose et ça se calme. Et ici, les démons savent. Jésus a l'autorité. Et on n'a pas à monter sur le grand chevaux, on n'a pas à rétorquer quoi que ce soit, c'est lui qui a l'autorité et on se tait. Et quand il dit quelque chose, on fait ce qu'il dit, et ici il y sort, alors on sort. Le démon reconnaît immédiatement l'autorité de Jésus-Christ et n'oppose aucune résistance, même s'il nous fait du flanc. Effectivement, regardez, Le démon projeta celui-ci au milieu de l'assemblée, donc quelque chose d'un petit peu spectaculaire, mais c'est que du flanc, il lui fait aucun mal, et il sort. Et on remarque que c'est exactement la même chose avec la maladie. Avec la belle-mère de Simon, verset 39, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta à l'instant même, elle se leva. Autorité clairement reconnue. La parole de Jésus-Christ est toute puissante. Et Luc insiste dessus aussi avec les réactions de la foule. La foule est saisie de stupeur en voyant la délivrance du démoniaque par Jésus. Verset 36, « Tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Et effectivement, si nous réfléchissons avec la foule, nous aussi on doit se poser cette question, mais quelle est cette parole? Comment ça se fait qu'il puisse faire ainsi? Et si on reprend le récit de Luc, bah tiens, ça on n'a plus besoin, est-ce qu'on a déjà vu un démon être chassé? Et jusqu'à présent dans Luc, c'est non. Alors on retourne sur la base de Luc, tout l'Ancien Testament. À quel moment, dans l'Ancien Testament, on voit un démon qui est chassé? Et là, on a beau parcourir tout l'Ancien Testament, on n'en trouve aucun. On ne voit jamais quelqu'un pouvoir chasser un démon. En fait, il y a bien une occasion dans l'Ancien Testament où on est face à un démon, quand Dieu envoie un esprit pour tourmenter Saül, n'est-ce pas? Et lorsque l'esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et on jouait. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait mieux, et le mauvais esprit s'écartait de lui. Mais ce n'était que momentané. Ce n'était pas une délivrance définitive. C'était momentané. Et à nouveau, David devait être appelé par le roi pour être calmé. Donc que temporaire, mais personne n'a menacé et commandé à des démons. Et ici, regardez toute cette stupeur du peuple, il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et remarquez, et ils sortent. C'est fini. C'est complètement fini. Quelle est cette parole? Alors c'est vrai que nous, c'est un peu facile. On sait très bien que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est le Dieu qui est incarné. Mais il faut se mettre à la place du peuple ici. Quelle est cette parole? Vous voyez un homme comme ça qui chasse un démon, vous êtes stupéfait parce qu'on n'a jamais vu ça. Et il faut alors se poser ces questions. Quelle est cette parole au final? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Et avec la belle-mère de Simon, c'est aussi assez impressionnant, n'est-ce pas? Parce que Capernaum est... Oh, je suis allé trop loin. Et une ville au bord du lac de Galilée qui se trouve sous le niveau de la mer dans la dépression du Jourdain. Et elle se trouve au bord de l'eau. Bon, effectivement, Pierre est un pêcheur. Et avec toute cette eau, en fait, viennent toutes les infections qui se trouvent au bord de l'eau et les maladies infectieuses telles que la malaria et le paludisme. Et le texte nous dit qu'elle a une forte fièvre. C'est pas moi qui suis pas bien, j'ai 37,8 et je suis pas bien. Non, non, c'est une forte fièvre. Très certainement, on est face à une belle-mère qui a le paludisme ici. Elle est complètement à plat, chaos. Et effectivement, si vous demandez à des missionnaires qui ont été en Afrique, quand on a le paludisme, on n'est pas bien. N'est-ce pas, hein, Hans? On se relève pas tout de suite. Ça prend du temps. Mais voilà, encore une fois, ce que Luc nous rapporte. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. On est clairement face à un acte miraculeux. Et il appuie cela avec le côté instantané. À l'instant, elle se leva et se mit à les servir. Pourquoi? Qu'est-ce que Luc veut nous montrer avec le fait qu'elle les serve? Est-ce que Jésus est un peu misogyne? Il utilise les femmes? Non, clairement pas. Mais encore une fois, il insiste sur le côté instantané. En fait, on est face à quelque chose qui ne devrait pas s'est passé. Avec une malaria, une maladie comme ça, on ne se relève pas tout de suite, on n'est pas capable de servir les autres. On attend ce que les autres nous servent. Mais face à la menace de Jésus, le malade est guéri, relevé immédiatement. Voilà la parole de Jésus. Et il y a généralisation du principe avec les guérisons le soir, à partir du verset 40. Et là, on est toujours ce jour du sabbat. Et la population qui a pu voir cela ou entendre cela, parce que tous n'étaient pas dans la maison de la belle-mère de Simon, en fait, vous savez qu'on est le jour du sabbat, donc on n'a pas le droit de se déplacer. On n'a pas le droit, ou en tout cas une certaine distance. Et on n'a pas le droit de porter des fardeaux. Donc à peine le soleil est en train de se coucher, tout le monde se précipite vers Jésus. Nous aussi, on veut être guéri. Et encore une fois, Luc utilise ce même terme, il menace et la guérison vient immédiatement face aux malades et la délivrance vient immédiatement face à ceux qui sont tourmentés par un démon. Autrement dit, ce n'était pas un coup de bol les deux premières interventions. Aucune maladie et aucun démon ne résiste à Jésus-Christ. À Nazareth, on a vu Jésus a enseigné le peuple. Et je relis juste ces passages de ce qu'il leur a dit. Verset 18 du chapitre 4. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et je passe au verset 21. « Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est ce qu'on a vu, autrement dit, en moi, cette parole est accomplie. À Nazareth, on voit que Jésus est venu pour délivrer et libérer les hommes de la puissance de Satan. Il est venu pour libérer l'homme de tout ce qui le pèse, de tout ce qui nous angoisse, de tout ce qui nous inquiète dans notre vie. C'est ce qu'il nous a dit, il est venu pour proclamer une année de grâce. Jésus est venu pour nous délivrer de tout ce qui nous inquiète, de tout ce qui nous angoisse. Il est venu apporter cette grâce. Et ici, à Capernaum, Luc nous montre que ce que Jésus-Christ a dit qu'il est venu faire, Luc nous montre au travers de ce récit que Jésus-Christ en a la capacité. Ce qu'il est venu annoncer, ce qu'il a annoncé qu'il était, il en a la capacité parce que lui a l'autorité sur tout, même sur le pire de nos ennemis, Satan lui-même. Et à cause de cela, il peut dire, et nous pouvons dire, le royaume de Dieu s'est vraiment approché. Jésus-Christ, c'est vraiment, fait vraiment que le Dieu qui nous a créés est présent, proche de nous, accessible en la personne de Jésus-Christ seul. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde va être guéri instantanément, maintenant ? Et là, on doit s'arrêter juste un instant. La belle-mère de Simon, à votre connaissance, est-ce qu'elle est morte ? Ouais, hein, à notre connaissance, elle est morte. Ça serait si elle n'était pas morte, n'est-ce pas ? Ceux qu'il a guéri, tous ces malades et ces démoniaques qu'il a libérés, est-ce qu'ils sont morts ? Jusqu'à preuve de contraire, ils sont vraiment morts. Est-ce que tous ceux-là sont retombés malades ? Très certainement, n'est-ce pas ? En fait, s'ils sont morts, c'est qu'ils sont tombés malades, hein, parce que la mort vient de la dégénérescence de notre corps, c'est-à-dire la maladie. D'accord ? Ils sont morts. Tous ceux-là sont morts. À moins qu'ils n'aient été tués de manière violente tout d'un coup, mais ils ont connu la faiblesse, ils ont connu le dysfonctionnement du corps, ils sont morts. Autrement dit, ce texte n'est pas là pour nous donner une promesse. Ce n'est pas la promesse que Jésus-Christ va nous guérir de toutes nos maladies. Ce n'est pas la fonction de ce texte-là. Parce que sinon, il aurait continué pour chacun. La fonction de ce texte n'est pas de nous faire une telle promesse, mais elle est là pour nous braquer, pour braquer notre regard sur Jésus-Christ. Quelle est cette parole ? Autrement dit, quel est cet homme qui parle ainsi et qui agit ainsi ? Ces textes sont là pour nous focaliser notre attention sur Jésus-Christ. C'est lui que nous devons regarder. C'est lui qui a l'autorité pour nous délivrer et nous conduire dans la présence de Dieu, pour nous accorder cette année de grâce. Focalisons sur lui. Nous voulons cette année de grâce ? Nous voulons connaître la liberté que Dieu accorde. Nous voulons connaître la présence de Dieu qui est en Jésus-Christ. Focalisons, braquons nos regards uniquement sur lui. Parce que c'est lui qui en a l'autorité. Alors attention à ce que je ne dis pas. Oui, Dieu peut encore guérir aujourd'hui, d'accord ? Je ne dis pas du tout le contraire. Dieu intervient encore aujourd'hui. Nous sommes toujours dans le temps de la victoire de Jésus-Christ. Mais, si nous lisons bien notre Bible, le corps de gloire est pour quand ? C'est pas pour aujourd'hui, n'est-ce pas ? Le corps de gloire, 1 Corinthiens 15, nous est réservé lors du retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour aujourd'hui qu'il y a l'accomplissement de cette parole, il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni souffrances. Ça, c'est pour quand Jésus-Christ va revenir. Autrement dit, on aura encore ces moments-là. Donc, ce n'est pas une promesse qu'on va être épargné de tout cela. Mais oui, Dieu fait encore des guérisons miraculeuses. Dieu libère encore de manière impressionnante. Comme signe qu'il a vraiment remporté la victoire sur Satan et sur tout désordre que Satan a créé. Mais de manière générale, ça va nous attendre à la fin. Comme ces personnes vont être ressuscitées à la fin. Le royaume est déjà là, mais il n'est pas encore pleinement manifesté. Donc ce texte ne nous fait pas de promesses, mais il oriente notre regard sur Jésus-Christ. Voilà en face de qui nous sommes. De l'homme le plus puissant de la terre, l'homme qui a autorité sur tout, même le pire de nos ennemis, l'ennemi de Dieu lui-même, Satan. Mais regardons la réaction du peuple maintenant face à ces guérisons et à ces délivrances extraordinaires, verset 42. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Des foules de gens se mirent à sa recherche et vinrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Contrairement à Marc, si nous lisons le même récit dans l'évangile de Marc, Luc ne précise pas que Jésus se retire dans un lieu désert pour prier. Nous qui lisons le récit de Luc, nous savons que c'est certainement pour cela aussi, mais Luc ne le met pas en évidence. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on n'a pas les quatre évangiles qui se baladent ensemble. Quand Luc nous a écrit son évangile, il n'a pas dit « Lisez celui-là, mais n'oubliez pas de le compléter par Matthieu, Marc et Jean. » Il n'y a que celui-là qui nous est donné. Il faut donc prendre le temps de réfléchir avec celui-là. Et ce n'est pas mauvais de prendre les autres, mais voilà les accents de Luc. Autrement dit, Luc déplace l'accent ici pour mettre en avant deux autres volontés. Il met en avant la volonté du peuple et il met en avant la volonté de Jésus-Christ. Et la volonté du peuple face aux grandes guérisons de Jésus-Christ, c'est quoi ? C'est de le garder et de le retenir. Alors que la volonté de Jésus-Christ, c'est d'annoncer la bonne nouvelle aux autres, c'est-à-dire d'annoncer l'année de grâce, la libération, la réconciliation. Mais eux, ils ne veulent pas. Ils veulent garder Jésus. Celui qui nous guérit, celui qui nous invite d'être malade, celui qui nous protège de tout ce qui nous angoisse, de tout ce qui nous retient dans la captivité, on veut le garder. C'est mon Jésus à moi pour mon confort à moi. Et pas pour le bien des autres. En fait, même pas pour ma réconciliation avec Dieu. On est face à la parole la plus puissante et tout ce qu'on veut, c'est « reste avec moi ». On veut utiliser Jésus-Christ pour son autorité, au lieu de braquer notre regard et de prendre le temps de réfléchir qui il est et qu'est-ce qu'il veut pour moi. Qui il est et qu'est-ce qu'il veut pour moi. À Nazareth, Jésus a appelé à nous confier en lui en acceptant au final son regard sur nous. Vous voyez, c'est miroir. Mais à Capernaum, il appelle à nous confier en lui parce qu'il a l'autorité. Parce que lui, il sait. Parce que lui, il peut nous délivrer de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Et à cause de cela, il nous appelle à nous confier en lui. Mais à Nazareth, les gens n'ont pas accepté. Ils ont voulu le tuer. À Capernaum, ils n'ont pas accepté. Ils ont voulu l'utiliser. Dans l'un et l'autre cas, on n'a pas la foi. Mais il y a une réaction contre Jésus. Tu me gênes dans mon regard, je me débarrasse de toi, je te tue. Tu peux m'être utile, alors je t'utilise, mais je ne veux pas écouter ce que tu as à me dire sur moi. Dans l'autre, dans l'une et l'autre situation, pardon, nous ne sommes pas dans une réponse de foi. Et la question se pose pour nous ici. Luc nous invite, nous aussi, à braquer notre regard sur Jésus-Christ. Oui, il est celui qui a l'autorité. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on fait comme avec Jeff Bezos? T'as pas un petit million? Pour moi? Ou avec Maurer? Tu peux pas faire sauter mon PV? Pour moi? Ou avec la personne qui peut accomplir nos rêves? Tu peux pas faire mon rêve? Pour moi? Mais au final, on va pas vers Jeff Bezos pour lui dire « Comment tu vas? Qu'est-ce que tu vis, toi, actuellement? Dis-moi exactement qui tu es, parce que moi, tout ce que je vois, c'est 110 milliards, mais qui tu es, toi ?» Même chose avec Maurer. Même chose avec la personne qui peut accomplir nos rêves. Et avec Jésus-Christ, on fait comment? Est-ce qu'on s'intéresse à lui? Qui es-tu? Toi qui m'invites à braquer mon regard sur toi, qui es-tu? Dis-moi qui es-tu. Et toi qui as autant d'autorité, dis-moi ce que tu attends de moi. L'écouter plutôt que l'utiliser. Et c'est notre risque encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous qui aimons les assurances en Suisse, on est plus à l'utiliser parfois comme notre assurance sociale, notre assurance maladie, notre assurance vieillesse, notre assurance professionnelle, notre assurance maritale, notre assurance familiale, mais pas être à l'écoute de qui il est. Et pourtant, c'est vrai que Jésus vient pour des choses très pratiques, n'est-ce pas? Il s'intéresse aux personnes. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour guérir. Mais les gens, en voulant leur confort à eux, en voulant le côté pratique que pour eux, malheureusement, se séparent de ce que Jésus veut pour eux. De manière dramatique. Parce qu'ils ne veulent pas l'écouter. Et Jésus-Christ nous dit ici, il a l'autorité, il est venu pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il nous invite ici à le laisser prendre soin de nous, mais pas prendre soin de nous comme nous on veut, mais prendre soin de nous comme lui il veut, selon cette bonne nouvelle, très pratique, très concrète pour notre vie. Mais vous remarquez, il nous laisse là, il dit, réfléchis. Réfléchis. Cette invitation pour nous aussi, toi aussi, réfléchis. Jésus-Christ a toute autorité. Ça veut dire quoi en pratique pour toi? Réfléchis. Face à tes angoisses, réfléchis. Face à tes craintes de l'avenir, réfléchis. Face à tes déceptions, réfléchis. Comment tu le vis cela? Est-ce qu'on est prêt juste à chanter, à dire, à se réjouir de la prédication? Jésus a toute autorité, super! Et puis on rentre à la maison, mince purée, qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que Dieu va m'accorder un conjoint? Est-ce que Dieu va m'accorder des enfants? Est-ce que je vais encore vivre longtemps? Etc, etc. Ça veut dire quoi, Jésus-Christ a autorité? En pratique, dans ma vie. Braque ton regard sur lui et écoute-le. Et c'est vrai que c'est tout ce que Jésus nous dit ici. Braque ton regard sur moi. Et c'est comme ça qu'en pratique, il va te dire, sois à l'écoute donc de mon enseignement et applique-le dans ta vie maintenant. Et vous savez, à juste raison, parfois des personnes qu'on va dans des séminaires, dans des prédications ou autres, on a peur parfois de trop lire la Bible. Parce qu'on a peur que ça remplisse trop notre tête. Ou alors, on dit, ça fait trop marcher le côté cérébral. Et je comprends, c'est vrai que parfois, on est trop en train de planer, n'est-ce pas? Au lieu de voir le côté pratique. Mais parfois, on veut que du côté pratique, parce que le côté pratique, c'est tout ce qui m'intéresse, moi. C'est que ma vie à moi, c'est que mon confort à moi. Et on ne veut pas prendre le temps de réfléchir sur qui il est, lui. Et Jésus nous dit, braque ton regard sur moi. Étudie-moi, encore, face à ce que tu vis, étudie-moi, écoute-moi, réfléchis à qui je suis, réfléchis à mes prétentions, réfléchis à ce que ça veut dire, aime ton prochain, mais maintenant réfléchis en pratique, par rapport à ton conjoint, par rapport à tes parents, par rapport à ton frère, à ta sœur, par rapport à ton collègue, qu'est-ce que ça veut dire? Ne te contente pas simplement de dire « Dieu m'aime, je me réjouis et veut que j'aime les autres ». En pratique, réfléchis en gardant ton regard braqué sur moi. Quand demain, ton patron va venir et te critiquer, garde ton regard braqué sur moi. Et réfléchis comment tu dois réagir par rapport à lui. Si tu t'es fait rejeter par quelqu'un, garde ton regard braqué sur Jésus-Christ. Et réfléchis en pratique ce que ça veut dire. Aime ton prochain comme toi-même. Au final, c'est ça la théologie. C'est ça l'étude biblique. C'est garder notre regard braqué constamment sur Jésus-Christ. Pour le laisser, celui qui a l'autorité, agir dans ma vie. Comme lui, il veut, et pas comme moi, je veux. C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que nous voulons un Jésus-Christ qui soit centré sur nous, ou nous voulons un Jésus-Christ où nous, nous nous centrons sur lui et sur sa parole? Et soyons clairs que dans un cas, c'est de la manipulation de Dieu. Et dans l'autre cas, c'est la vie de disciple. Et regardez ce que Jésus-Christ a dit de Capernaum plus tard. Et toi, Capernaum, donc notre ville ici, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Ils n'ont pas eu foi. Jésus est en train de dire, ceux de Sodome étaient meilleurs que vous. Vous imaginez la claque? C'est une énorme claque. Et la réclamation, et nous? Nous sommes comme Sodome? Ou pire que Sodome? Ou nous voulons écouter Jésus-Christ? Sodome, je vous laisse lire, c'est dans Genèse 18, au cas où, c'est cette ville que Jésus-Christ a, que Dieu a jugée, parce qu'ils étaient complètement contre Dieu, ils vivaient de manière complètement immorale, violente, sans écouter Dieu, et Dieu a fait un grand jugement définitif sur cette ville, en éradiquant toute vie. Ça ne veut pas dire que Dieu ne s'intéresse pas à nous. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. Ça va être très pratique, mais nous voulons l'écouter comme lui, il le dit. Mais remarquez encore une chose. Dans un premier cas, si on ne s'intéresse qu'à nous, alors on est inutile dans les mains de Jésus-Christ et dans les mains de notre Maître. Mais si on comprend que c'est centré sur lui, alors on laisse Jésus-Christ poursuivre sa mission. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Si on garde fixé notre regard braqué sur Dieu pour vivre ce que lui nous donne de vivre aujourd'hui en le vivant selon sa volonté et pas en cherchant à contourner dans tous les moyens pour notre confort, alors nous serons utiles dans ses mains pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu se répande. Mais si nous voulons le garder que pour nous centrer sur nous, la bonne nouvelle va s'arrêter autour de nous, sans nous atteindre et sans nous dépasser. Quelle vie de disciple voulons-nous? La vie de disciple, c'est pas simplement de croire qu'il est là pour faire tout ce que moi je veux, mais de braquer mon regard, d'avoir foi en lui, pour laisser avoir toute autorité sur ma vie, dans toutes les circonstances que lui me donne, dans toutes les relations que lui m'accorde. Quelle que soit la dureté, quelle que soit la pénibilité, il le fait parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous faire grandir, parce qu'il veut qu'on s'appuie sur lui, qu'on ait une relation intime avec lui et avec personne d'autre. Je vous invite à prier.